Une réservation 20 heures. Puis c'est ça. Je vais essayer de me reprendre pour l'année assez particulière qu'on a eue, là, où j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie.
OK,
Fait que là,
donc.
c'est demain soir, je vais racheter pour toute l'année d'avant.
Ouais. Mais tu sais, le 14, là, c'est la cohue, tout le monde, les parkings.
Ouais.
Tu peux faire ça vendredi ou samedi aussi. Là. C'est pas pour 2 jours, là.
Ouais, j'en ai parlé, j'ai glissé ça. On pourrait faire ça la fin de semaine, le samedi soir, aller souper. Puis elle a dit non, c'est la Saint-Valentin,
ouais,
c'est le 14.
C'est... Parce que tu sais, le romantisme, là, le mardi, un restaurant plein à craquer, là.
Ouais, c'est sûr que ça manque un peu de romantisme.
Ben, tu sais, c'est comme tout le monde en même temps, là.
Exact. Mais en même temps, le mardi soir, ça coûte moins cher que le samedi.
Ah! Hey, OK!
Avez-vous été en ville en fin de semaine?
Petit message au boss.
Ouais. Avez-vous été au Pee-Wee en fin de semaine?
Au chalet, je suis allé hier. J'ai bien aimé ça. Ça faisait longtemps que je t'ai parlé.
Oui, vous êtes
allé
hier?
Je suis allé avec mes deux petits-fils. Okay. Ben, mon petit-fils, ma petite-fille.
Oui.
Et ils ont gagné des billets à l'école. C'est sûr, il y a un petit tirage, là, puis ils ont gagné des billets.
Pour eux autres, c'est gros, là.
Eux autres, c'est la fin du monde. C'est comme si elle gagnait un billet de la Coupe Stanley. Alors, papy, on a des billets, tout ça, fait que c'est beau. Fait que je suis allé chercher à 10 heures. J'ai évalué la foule, c'est toujours difficile. Il y a peut-être, je ne sais pas, 4000 personnes, peut-être 5000 dans le centre Vidéotron, là. On voulait aller dans le grand stade, on ne voulait pas aller au pavillon de la jeunesse. Non, on va aller dans le gros bol. Parfait. On rentre dans le gros bol. Pas d'attente, des jeux. On s'assoit où on veut, il y a de la place partout. Puis c'est le fun. On a vu, c'est des matchs, ça dure une heure à peu près. Là.
Ouais.
Toi, on a vu un match assez serré, là. C'était assez bon, avec une équipe de la Suisse contre une équipe américaine. Puis l'autre, ben, c'était des filles. Fait que là, j'ai expliqué à ma petite fille que là, OK, c'était fait pour les filles aussi, tu sais.
Ben oui.
Alors, elle était bien contente.
Et c'était une équipe de filles uniquement?
Une équipe de filles, Québec contre la France. La France s'est fait rosser 8-0. Ça, c'est un peu moins le fun. Là. Je pensais qu'à partir de 7, là, il arrêtait la game. Maintenant, ça a continué, mais le meter marche tout le temps, tu sais. Il n'y a pas d'arrêt pour les pauses, là.
C'est ça. Est-ce que c'était des filles qui jouaient contre des filles ou
des filles contre des filles? Des filles du Québec contre des filles de la France. Ça m'a fait penser à ma deuxième fille. À l'époque, elle jouait avec les gars, puis elle jouait dans le Pee-Wee. Pee-Wee B, je pense, ou A, là.
Mm-hmm.
Et on avait fait venir une équipe de France à l'époque, qu'on avait joué contre les Voiliers de Sillery. Ils appelaient ça les Voiliers de Sillery, dans le temps qu'on avait une équipe à Sillery. Après ça, ça a été matché avec Cap-Rouge, puis les gouverneurs de Sainte-Foy. Ça s'appelait les gouverneurs, dans le temps, ça s'appelait les Voiliers de Sillery. On a fait venir une équipe de France. Ils venaient, je ne sais pas sur quel tournoi. Puis nous autres, on pensait qu'on allait manger 12-0, tu sais. On s'est fait planter, tu sais. Il était très, très bon. Ah oui, il était très, très bon. Et cette fois-ci, je me suis dit, peut-être les Françaises vont nous surprendre. Mais ça n'a pas été le cas. Il faut dire qu'à l'époque, c'était des équipes de gars, là. Gars français contre gars québécois, mais on s'était fait vraiment planter.
Oui. Mais voyez-vous, moi, là, mon plus vieux, il est à tombe, là. Puis les deux jeunes filles qui sont dans son équipe font partie du top 5 de l'équipe, là, avec le patin. Ils ont un patin qui est supérieur aux gars.
Mm-hmm.
Peut-être qu'il y a eu des formations de patinage artistique avant, là, mais tu sais, au niveau du freinage, là, c'est évident. À l'œil, tu vois qu'eux, freiner, il n'y a pas de problème. Au niveau de la vitesse d'accélération aussi, il y a peut-être au niveau de l'agressivité où là, tu vois une différence que les gars sont peut-être plus agressifs que les jeunes filles. Mais je vous dis, le top 5, c'est vraiment les deux petites qui sont dans notre équipe, là, ils dominent les gars.
Quelle position?
Une qui est à l'attaque, l'autre est à la défense.
Uh-huh.
Puis, tu vois, hier, j'ai assisté au match. J'étais dans les estrades. Puis, il y en a une qui a réussi à... Elle est partie derrière son but. Puis, avec son patin, elle a réussi à dépasser tous les joueurs. Puis, elle est marquée directement dans le but l'autre côté. C'était de toute beauté. Souvent, à cet âge-là, les filles ont comme une coche au-dessus au niveau physique.
Oui, elles sont plus grandes.
Oui, elles sont plus grandes.
Puis, dans le Pee-Wee, là, les gars les rattrapent. Là. À un moment donné, à 12-13 ans, là, les gars commencent à prendre de la masse musculaire aussi.
Ouais.
Là, c'est... Là, c'était un petit peu plus rough, là.
Mais voilà. Donc, vous n'avez pas eu de problème de stationnement, là, ce que je comprends.
Pas tout. Samedi, juste à côté. Super.
Samedi, avec les Ukrainiens, là, semblerait que... Bon, on attendait 18 500 personnes au centre Vidéotron. Il y a au-dessus de 2000 personnes qui n'ont pas été au
pas
centre
punché.
Vidéotron parce qu'il n'y avait pas de stationnement.
Oh.
Partout sur le stationnement du centre Vidéotron, Colisée, Pepsi, même il y avait un salon aussi, le salon de la moto. Tout ça était en même temps. Les rues avoisinantes, il n'y avait pas de stationnement. Place place Fleur-de-Lys, il n'y avait pas de stationnement.
Mais là, c'est quoi le problème?
Sacré le... Honnêtement, je ne sais pas.
Non, mais c'est ridicule en maudit. Tu pars de Saint-Apollinaire, toi, puis tu arrives là, puis tu n'as pas de place parquée. Ouais. C'est frustrant, là.
Il y a peut-être une mauvaise planification.
Ouais, c'est pas d'hier, là. Tu te souviens dans le temps qu'il n'y avait pas de taxi, puis qu'il n'y avait pas ci, puis qu'il n'y avait pas ça? On avait une équipe de la Ligue nationale. Hein. Tu es supposé être capable de gérer le trafic pour rentrer le maximum de personnes dans notre stade?
Mais
c'est pas normal, là.
Jean-José, à midi, avec mon équipe, puis vous, là, vous êtes un homme d'expérience. Là. Dans la vie, on est supposé d'apprendre de ses erreurs quand on fait quelque chose.
Ouais. C'est moins le cas dans les administrations publiques. Là.
Mais on comprend pas. Juste avec la neige en fin de semaine.
Ah, vendredi, c'est l'enfer. Vendredi, la ville, là, ça n'a pas d'allure.
Vendredi, ils ont décidé de ne pas déneiger alors que les trottoirs étaient pleins, les rues étaient pleines. Mm. Ils devaient bien savoir que c'était à parade samedi soir.
Le carnaval, il y a du monde en ville. On fait le carnaval pour amener du monde, puis il y a des bancs de neige. T'sais.
Savez-vous ce que des commerçants sur quartier ont fait? Mmh. Eux sont rentrés le samedi matin, puis eux, c'est des entreprises privées, fait que la planification, ils connaissent ça. Ils ont rentré samedi, ils ont regardé la rue bien pleine à grandeur, les trottoirs bien pleins, ils ont dit « c'est pas vrai qu'on va célébrer le carnaval comme ça mmh. ». Ils ont payé un déneigeur privé pour que le déneigeur puisse arriver avec son souffleur puis faire de l'espace pour les stationnements pour qu'eux puissent avoir un beau carnaval sur quartier. Moi, je salue ces commerçants-là, ouais. Mais je dis « envoyez la facture à la ville ».
Ouais, je sais pas si t'as le droit de faire ça. T'as-tu le droit d'engager un déneigeur privé pour déneiger une voie publique?
Moi, j'attendrai.
Pas sûr, mais là, c'est gênant pour la ville de Rejimbé, mais il reste que. T'sais...
J'attendrai que Bruno Marchand fasse un point de
ouais,
presse.
C'est ça.
J'arriverai en hypocrite avec ma facture. Tenez, M. Marchand, ouais, c'est pour ça. La rue Cartier samedi. Je comprends pas. Puis là, ils se sont excusés, puis là, on leur fera plus, mais
non, ouais.
On n'apprend pas de nos erreurs
non,
à Québec.
Non, ça n'a pas de bon sens, mais je ne suis pas sûr que le maire Marchand, c'est. Je ne suis pas sûr que c'est sa force, moi, les services, là. La voirie, les poubelles, la neige. Pourtant, une administration municipale s'est axée sur les besoins de base. T'sais, la neige, ça donne qu'à Québec, on en a.
Arrange-toi
on a peut-être moins qu'on en avait il y a 100 ans, mais on en a encore.
Arrange-toi pour que j'aille de l'eau qui rentre dans ma maison. Arrange-toi pour t'occuper de mes égouts.
Ouais,
arrange-toi pour que mes rues soient déneigées. Arrange-toi pour ramasser mes vidanges puis mon recyclage. Puis laisse faire les missions là, à l'étranger pour aller voir si le tramway là-bas, ça fonctionne ou pas.
Voici les neiges.
Au pire, t'envoies des connaisseurs, t'envoies des ingénieurs, mais toi, reste ici puis gère ce qu'il y a à gérer, dont la neige. Je veux dire, tu peux pas te tromper, là, c'est le carnaval.
Ouais, mais on essaie de trouver la force de Bruno Marchand à la mairie de Québec. C'est quoi sa force? C'est quoi son étiquette? L'écologie. Là. Je pense que l'écologie, c'est un gars qui est sensible à l'écologie. Le compost, ces affaires-là, ben, quelque part, tu sais. Moi, je sais que chez nous, là, j'ai reçu une chaudière la semaine passée. Oui. Tous les copropriétaires ont reçu une chaudière pour du compost.
Sac de plastique mauve.
Les sacs de plastique mauve avec une chaudière grise, une étiquette, puis tout ça. Mais là, tu sais, moi, je fais du recyclage. Là, je ramasse mes cartons, je ramasse mes vieilles boîtes, mes papiers, tout ça. Puis je fais bien attention pour tout mettre ça dans le recyclage. Mais le compost, là, c'est tes vieux poissons, puis ton vieux gras de steak, là, tu vas ramener ça dans ton sac, puis c'est ça.
Moi, je le ferme à tous les jours, là, en fait, au repas. Là.
C'est vrai?
Après les repas, je mets ça là-dedans, je ferme ça, puis je m'en vais porter ça directement dans mon bac à vidange, parce que à l'incinérateur, il y a un tri. Oh, oui, c'est ça. À l'incinérateur, il y a un tri, là, puis dès qu'il y a un
sac mauve.
L'ordinateur qui détecte le sac mauve prend le sac mauve puis l'envoie dans un autre endroit. Ils vont pouvoir transformer ça puis faire de l'énergie avec ça.
Tu fais ça, toi?
Je le fais.
OK.
Je le fais. J'essaye de m'adapter à l'air du temps, mais tu sais, de l'autre côté, moi, quand je m'aperçois qu'on n'a aucun retour sur notre investissement, parce que moi, mon petit sac mauve, là...
Non, t'as trois sacs, là.
Si tu me dis que ça va faire économiser 10 millions, je veux le voir, ce 10 millions-là.
T'as les vraies poubelles, t'as le trash.
Oui.
T'as ton sac pour pour le recyclage, les cartons, les papiers, ces affaires-là.
Exact.
Puis t'as aussi ton sac mauve pour le compost. T'as trois sacs.
C'est ça.
Puis tu fais ça, toi.
Je le fais.
Ah bien, quoi.
Puis on est plusieurs. C'est un projet...
Impressionnant.
C'est un projet qui... Bon, on essaie d'être dans notre ère du temps. Là.
OK.
C'est...
Donc, tous les restants d'assiettes, là,
on
met ça dans le mauve.
C'est ça. Des écailles, mettons, je ne sais pas moi, des peanuts, là, on met ça là-dedans. C'est tout ce qui est alimentaire ou qui touche à des aliments, on met ça là-dedans. Puis c'est supposé de servir à quelque chose, de servir à créer de l'énergie. Mais je veux voir cet argent-là. Là, on me dit que pour ce qui est du déneigement cette année, là, 2022-2023... On a rajouté 10 millions de dollars de plus pour déneiger.
Sauf dans le temps du carnaval où là, ils prenaient un break.
Mais est-ce qu'on a vu de l'amélioration? Moi, j'ai pas de trouble à payer, là, de déneigement. Moi, ils viennent déneiger mon entrée. Elle paye. Je m'attends à ce que quand la ville doit déneiger, qu'on paye ces gens-là, mais les 10 millions supplémentaires, ils devraient paraître. Malheureusement, ça ne paraît pas. Mais pour en revenir à Bruno Marchand, j'ai l'impression, puis c'est la même chose à Montréal, là, j'ai l'impression qu'on a pris des gens qui ont atteint comme le sommet de où est-ce qu'ils pouvaient aller. Là. C'est le principe de Peter. Là. Mm-hmm. À un moment donné, tu vas atteindre ton degré d'incompétence.
Ouais, c'est ça.
Ben là, on est rendu.
Plus tu montes, moins t'es bon.
Puis je pense que parce qu'il y a des difficultés à gérer sa ville, il préfère surfer sur des projets qui sont peut-être plus populaires pour sa gang. Tu sais, Bruno Marchand, c'est pas un gestionnaire. Là.
C'est l'écolo, l'écologie, le réchauffement climatique.
Excellent porte-parole, Bruno Marchand, mais c'est pas un gestionnaire. Puis c'est pas le genre de gars qui va crucifier un individu sur place. Ce que la bombe faisait. Si un individu faisait pas sa job, ben la bombe se faisait un malin plaisir à le crucifier
en disant... Là-dessus, Marchand est plus civilisé, c'est sûr.
Exactement, Marchand est plus civilisé. Mais de l'autre côté, moi, je m'attends à des résultats. Je demande pas grand-chose. Là. Je veux juste que les vidanges soient ramassées. Je veux juste que la neige soit ramassée. Puis je veux que la ville fonctionne convenablement. Puis là, ben, en fin de semaine, on a eu de l'heure d'une gang de cochons qui sont pas capables de s'organiser sur le sens du monde.
Puis dans ses relations avec les gouvernements supérieurs, c'est un peu douteux aussi. Là. Medicago, puis tout ça, tu sais, il n'est pas informé que ça ferme. Ben, ouais. Donc, on dirait qu'il... Mais tu sais, peut-être qu'ils n'ont pas aimé non plus son manque d'engouement pour le tramway et ces affaires-là. Les projets, le troisième lien, les projets qui viennent d'en haut, tu sais, surtout de Legault, là.
Ouais.
Ils s'aperçoivent que le Marchand, il ne marche pas dans sa main.
Il y a pas le...
Ça, c'est un peu tannant.
Il ne semble pas avoir le poids politique que la baume avait auprès des instances gouvernementales supérieures.
Mm-hmm.
Maître Bellemare, on jase un peu d'actualité. Si vous le voulez bien, puisqu'aujourd'hui, c'était le début de l'enquête publique du coroner Marloin sur les petites carpentiers.
2010, si hein? Ça, 2020, plutôt, passé. L'événement?
Les carpentiers?
Ouais.
C'est le 8 juillet 2020, de mémoire.
8 juillet 2020, puis l'enquête du coroner, qui aurait dû être demandée spontanément, à mon avis, dans les semaines qui ont suivi, parce qu'il y a tellement de questions que les gens se posent. On s'est dit, bon, mais il ne faut pas que ça arrête là. On s'est contenté d'un communiqué de presse de la Sûreté du Québec qui disait on a fait le maximum, puis on ne pouvait pas faire plus.
Alors qu'on a menti, là, la Sûreté du Québec avait menti.
Puis là, ça a été la Radio-Canada qui a sorti ça, à un moment donné, qui a dit, bon, Bouchard, la journaliste, qui a sorti ça, puis qui a dit ça n'a pas de bon sens, puis c'est la Sûreté du Québec qui nous a pas dit la vérité, puis tout ça. Puis là, la ministre Guilbeault décide de déclencher une enquête publique du coroner. Mais... je comprends pas pourquoi ça a pris 2 ans. Parce que 2 ans, ça veut dire que là, ça fait déjà 1 an de ça. Fait qu'on est rendu en 2023 pour enquêter sur un événement qui est arrivé en 2020. L'écoulement du temps, c'est jamais bon dans le système judiciaire. Hein. Quand tu fais des enquêtes, là, l'écoulement du temps, là, les papiers, les documents,
la mémoire des
souvenirs, c'est ça. Il était à quelle heure, quand est-ce que je suis arrivé, puis tout ça. Ça devient un peu plus compliqué. Alors, c'est un petit peu plus facile d'alambiquer les faits. On verra bien ce que ça va donner, mais là, la mère a témoigné aujourd'hui, je pense.
Oui, donc c'est présidé par le coroner Luc Marloin.
Ça, c'est une bonne affaire. C'est un très bon coroner.
Oui, 13 journées d'audience qui sont prévues. Il y a 8 journées de débordement aussi au besoin pour un total de 21 jours. Il y a 51 témoins prévus au dossier, dont des proches des victimes, des enquêteurs, des policiers, des experts médico-légaux. Et il y a des centaines de pages de preuves qui seront déposées. Et elle, ce qu'elle mentionnait, c'est que pendant l'opération de recherche qui s'organisait dans les premières heures qui est extrêmement critique, là, ben les heures passaient, puis elle se dépêchait de son côté à faire diffuser l'information comme quoi ben, elle avait perdu ses deux petites filles. Là. Ses deux petites filles étaient perdues avec le père des deux petites filles, et elle mentionne que à la SQ, elle aurait dit « Martin ne sortira pas du bois, il a peur, ça ne lui ressemble pas, il faut qu'on le trouve », puis elle parlait d'un « feeling » en disant qu'elle avait trouvé son ex-conjoint qui était très amaigri dans les dernières semaines et qu'il était obsédé par la possibilité de perdre la garde de ses deux filles. Et ça, c'est un élément que moi, je n'avais pas. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer.
Ça a été dit, ouais.
Mais d'un côté, vous avez des policiers qui se présentent sur place, sur les lieux d'un incident. Dans ce véhicule-là, il était supposé avoir 2 enfants. Les 2 enfants ne sont pas là. L'individu s'est sauvé. Dans le véhicule, on retrouve une petite sandale. Là, je pense que c'est la sandale, la petite Romy. Et on nous mentionne que l'individu aurait piqué dans le bois. À partir de ce moment-là, là, c'est pas quelque chose qui est normal comme réaction.
Oui, c'est ça. Mais il y en a qui disent qu'on aurait peut-être pu anticiper les conséquences. Mais tu sais, tu as des enfants avec quelqu'un, toi.
Oui.
Puis à un moment donné, tu vois arriver le conjoint ou la conjointe, tout croche, problème de comportement, une dépression, tout ça. Mais à quelque part, Tu vas-tu dire, ben là, non, tu partiras pas avec les enfants. Il était pas saoul, il était pas drogué, il y avait peut-être un problème d'estime de soi, il était peut-être en détresse. Mais tu sais, je trouve que la santé mentale a le dos large à un moment donné. On est rendu qu'il faut qu'on devine qui va faire quoi. Tu peux pas anticiper. Il y a tellement de monde tout croche dans la société. On va paralyser 75 % des gens.
T'sais. L'alerte Amber a été déclenchée quoi, 15 à 18 heures plus tard?
Oh, oui, ça a été long.
Je pense qu'on devrait, quand on est policier, faire abstraction des émotions des gens. Mm. Ah, ben là, non, je pense que... Non, oui, il ferait pas de mal à ses enfants. Il les aime, ses enfants. Le policier ne doit pas dire, ah, ben là, la personne la plus proche de lui dit qu'il les aimait, ses enfants. Il ne devrait pas dire, on va attendre un peu. Il y avait les éléments nécessaires pour voir que la situation était totalement anormal. Mm-hmm. Ça coûte rien de plus, là, déclencher l'alerte Amber.
Disparition d'enfants, c'est simple. Là.
Exact.
Le critère n'est pas compliqué. Là.
Puis, c'est drôle. Hein, parce
on se demande pas pourquoi. Il y a des enfants qui ont disparu de la carte.
Il
faut y retrouver.
T'sais, puis je sais pas pourquoi les émotions sont encore là-dedans, parce que quand on va interviewer des familles qui habitaient aux abords des individus qui ont commis des gestes épouvantables, le premier réflexe des voisins, c'est quoi? On pensait pas qui aurait fait une affaire de même. Son conjoint, sa conjointe, hey, je pensais pas qu'il aurait fait une affaire de même.
Il avait l'air d'un bon gars.
Laissons faire les émotions.
Ces deux filles.
Regardons ce qui s'est passé.
Ouais.
Accident sur l'autoroute 20, l'individu s'est sauvé. Il y a une petite fille qui est dans le bois, pas de sandales, puis il faut les retrouver le plus rapidement possible. Tout simplement, on pèse sur le piton. Là.
Mm-hmm. C'est pas comme ça. Ça a été ben trop long. Il y a eu le temps de les tuer tous les deux, là. Parce qu'ils ont été tués, et probablement qu'au moment où la lettre Amber a été lancée, ils étaient déjà morts, là.
Oui, l'enquête a démontré qu'effectivement, il était mort un petit peu avant, donc peut-être que ça aurait changé quelque chose ou pas, mais du moins, la police n'aurait pas eu de l'air dans l'aventure.
Même s'il n'avait pas été tué, là, le fait de, tu sais, des enfants mineurs, des petites filles, qui sont pas grosses, là, pendant qu'ils n'ont pas de soins, qu'ils n'ont pas de nourriture, disons, qu'ils sont perdus dans le bois là, pendant 18 heures, là, c'est sûr qu'ils ne courront pas le marathon. Là.
On interviewa aujourd'hui la mère des petites carpentiers, ce qu'on dit,
c'est ça.
Carpentiers, ouais.
Oui.
Et on lui a demandé si elle jugeait que Martin Carpentier était dangereux pour sa famille, et elle a mentionné du tac au tac, Martin est devenu dangereux au moment où il a tué mes enfants.
Alors, ça veut dire qu'elle-même n'a pas identifié, même si elle le connaissait très bien, elle n'a pas identifié de signes de détresse particuliers. C'est une femme intelligente, c'est pas une psychiatre non plus. Puis même un psychiatre aurait pu se tromper. Mais elle, qui connaît bien le bonhomme, n'a pas vu de signes de détresse ou de signes d'incapacité. Il conduisait son auto, il s'en allait à la crème glacée molle, il était avec ses deux filles. Qui aurait pu anticiper? Mais à partir du moment où les filles disparaissent, là, c'est tout de suite. Là.
Exact. À partir du moment où ça pique dans le bois et ça donne pas de nouvelles, let's go, on pèse sur le piton, mon Léon.
Mm-hmm.
Maître Bellemare, un prof d'un certain âge qui a mis son élève de 16 ans enceinte, qui peut toujours continuer à enseigner. Assez particulier, cette histoire-là. Ça se passe en Mauricie.
Oui. Puis sais-tu que le ministre Drainville, le ministre de l'Éducation, lui, il dit « Je vais demander une enquête là-dessus. » Mais il y a un problème au niveau de l'enseignement. Hein? Puis là, j'ai regardé tantôt, puis c'est pas très scientifique, mon étude. Je suis allé sur Google, le nombre d'enseignants au Québec. 48 300 au préscolaire et primaire, 34 000 au secondaire, puis 20 500 à l'éducation aux adultes. Ça veut dire à peu près 100 000 professeurs enseignants au Québec. Moi, quand j'étais en politique, là, en 2003, il y en avait 60 000. Et on voulait faire un ordre des enseignants. Tu sais, c'est quoi un ordre des enseignants? Un ordre professionnel. Le barreau du Québec, si tu n'es pas satisfait d'un avocat, tu fais une plainte au barreau du Québec, puis un syndic qui va enquêter pour voir si l'avocat a respecté son code de déontologie. Est-ce qu'il a été poli?
Oui.
Est-ce qu'il a répondu aux appels? Est-ce qu'il a pris de l'argent dans son compte en fiducie? Est-ce qu'il a insulté son client? Est-ce qu'il a fait preuve de manque de respect? Est-ce qu'il a déshonoré sa profession? Les médecins, c'est la même affaire. On peut faire des plaintes. C'est le code des professions qui le prescrit. L'ordre des enseignants, là, c'est une nécessité. Là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ordre professionnel des enseignants, comme il n'y a pas d'ordre professionnel des journalistes, d'ailleurs. C'est à peu près les deux grands secteurs d'activité importants où tu ne peux pas porter plainte. Alors, il faudrait qu'il y ait un ordre des enseignants, comme pour les avocats, les architectes, les ingénieurs, les médecins, pour que tu puisses t'adresser à la corporation professionnelle des enseignants pour qu'ils puissent blâmer un enseignant, puis à la limite, déposer une plainte en discipline.
Mais
parce que là, il n'y a pas ça. C'est juste le ministre qui peut intervenir. C'est juste un rapport administratif. C'est pour ça que ça ne bouge pas.
Mais je comprends. Mais bon, je comprends que l'âge de consentement maintenant, depuis les conservateurs, c'est 16 ans. Okay? Mm-hmm. Mais il ne doit pas y avoir d'autorité là-dedans. Donc, si l'individu a 19 ans, il peut fréquenter une jeune fille de 16 ans,
oui.
Mais il ne faut pas que ce soit son entraîneur...
Il ne faut pas qu'il y ait de lien d'autorité.
Exact. Il ne faut pas qu'il y ait de lien d'autorité. Mais dans ce cas-là, c'est carrément ça. C'est un professeur qui était beaucoup plus vieux, qui a eu des relations sexuelles avec son élève de 16 ans. Donc, ça devrait être un crime, là.
Ah oui, c'est ça. Puis j'imagine qu'il est accusé. En tout cas, on ne sait pas, là, mais il l'a mis en scène puis il continue d'enseigner. En tout cas, s'il a été accusé ou qu'il n'a pas été accusé, je trouve que il y a un manque de respect à quelque part, puis il y a un manque de jugement dans le fait de laisser ce gars-là enseigner encore aux élèves.
Il y en a-tu toujours eu, ça, de ces affaires-là, tu sais, de votre mémoire d'homme?
Non, mais moi, je pense pas. Moi, j'ai jamais vu de cas comme ça, où là, c'est plus qu'une relation sexuelle, il l'a mis enceinte. 16 ans.
Tout a débuté il y a environ de ça 25 ans lorsque l'homme a entamé une relation intime avec une de ses étudiantes qui est tombée enceinte de lui.
Elle avait quoi, 14-15 ans?
Quand elle ça avait a commencé? 16 ans à l'époque. Au départ, la relation n'était pas connue de la direction du collège. Et ça, c'est ce qu'a affirmé un des directeurs de l'établissement privé qui a depuis fermé. Nous l'avons seulement su après les faits. Après qu'on l'ait vu finalement accoucher, là, on a eu connaissance de rien avant la grossesse, sans se rappeler si des mesures contre l'enseignant avaient été prises par la suite. Ça va bien pareil.
Ah, ça n'a pas de bon sens.
Et ce qu'on a appris de cet enseignant-là, entre autres, c'est que dans la même école, une fois que la jeune fille de 16 ans est tombée enceinte et qu'elle est partie en grossesse, là, ben lui s'est amouraché d'une deuxième élève. Et avec cette personne-là, il a eu, il était 15 ans. Et il y a eu des enfants, 3 enfants qui sont nés de cette union-là. Là.
Le loup dans la bergerie. Incroyable. Mais pourquoi ils ne le mettent pas dehors ou qu'ils ne le laissent pas en congé sans solde pendant un certain temps? Là?
La direction dit ne pouvoir rien faire, Maître Bellemare.
C'est pas vrai, ça.
On soutient n'avoir aucun motif.
Tu voles un crayon puis tu perds ta job. Là.
On soutient n'avoir aucun motif pour sévir contre l'enseignant, bien que ce dernier ait entretenu des relations intimes avec 2 adolescentes à qui il enseignait. Lorsque nous analysons notre lien d'emploi avec cette personne s'échelonnant sur plus de 20 ans, ainsi que la preuve soumise, aucune information ne nous permet de prendre quelconque action envers cet employé. Et ça, c'est la porte-parole de l'organisation Anne-Marie Bellerose qui mentionne ça. Et il y a une enquête interne qui a été menée pour arriver à cette décision-là qui assure que le C3S ne fait aucun compromis sur la... Le CSS, pardon, ne fait aucun compromis sur la sécurité de ses élèves.
Non, ça n'a pas de bon sens. Imagine-toi, toi, t'es père de famille, là, puis t'as une fille de 15 ans, là, puis à 15 ans, ils ont quoi, là? Ils sont en secondaire 3 ou 4, là, dans ce coin-là. Puis tu l'envoies dans une école, là, puis tu sais que le professeur, c'est un prédateur, là. Il va creuser ta fille, il va coucher avec, puis il va mettre enceinte. Le bonhomme, c'est ça qui est marqué dans l'article. Le père de famille, il est complètement dévasté. Lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Là? Il envoie son enfant à l'école où tu es censé avoir les conditions de sécurité maximale pour un adolescent. Là. L'école, là, c'est pas un bar, là. C'est pas un camp de vacances.
À matin, là, j'étais leur conduire mes gars à l'école, là,
ouais.
Puis je sentais mes gars en toute sécurité une fois qu'ils franchissent les portes de l'établissement. Là.
C'est ça.
Je me dis, OK, là, ils sont en sécurité, c'est beau, je peux partir. Quand t'apprends ça plus tard.
T'as pas de bon sens. Puis le ministre a dit, Drainville était scandalisé, il a dit, je vais demander une enquête, puis tout ça. Mais il y a comme un problème, je te dis que c'est pas normal. Et normalement, s'il y avait, je le répète, là, un code de déontologie pour les enseignants, puis à l'intérieur de ça, il y aurait, comme par exemple, nous autres, les avocats, le code de déontologie, il nous interdit d'avoir accès à des clientes ou des clients et d'avoir des relations avec ces gens-là, des relations amoureuses, même s'il n'y a pas de sexe, des relations amoureuses, des relations, tu sais, intimes, là, disons. Et c'est sanctionné de façon très, très claire. Les médecins, on en voit régulièrement dans les journaux des médecins, parce que le code de déontologie dit, ta conduite, ça va être de ne pas croiser des patientes, ça va être de ne pas croiser des clients. Alors, un ordre des enseignants, ça voudrait dire un code de déontologie, c'est une question de comportement, le code de déontologie. C'est pas nécessairement des comportements illégaux. Qu'est-ce qu'on va avoir comme critère de conduite pour les enseignants au Québec? Mais il n'y en a pas d'ordre des enseignants. Puis je te dis, en 2003, c'était dans le programme du Parti libéral.
Mm-hmm.
de mettre sur pied l'ordre des enseignants, puis Charest a backtracké là-dessus, puis il a décidé de ne pas en faire. Puis je ne sais pas si la CAQ a pas mis ça dans son programme à un moment donné. Je sais que depuis 20 ans, c'est revenu dans l'actualité, mais le lobby, les syndicats sont tellement forts que le gouvernement ne bouge pas là-dessus, puis c'est les parents qui payent pour ça. Parce que si tu veux tasser un enseignant dans une école pour une question comportementale, tu es obligé de passer par le ministère ou l'établissement. Puis l'établissement, bien là, il ne veut pas se mettre ici puis ça, mais ça donne des résultats comme ça. On a des enseignants qui couchent avec leurs élèves de 16 ans puis qui les mettent enceintes, puis ils ne bougent pas.
Je peux vous confirmer, moi, au Collège Radio-Télévision de Québec, qui est un collège privé, on est dans le Collège Barthes, là.
Ouais.
Puis nous, c'est stipulé, là. Si jamais tu fréquentes, c'est des adultes en passant, nous, à qui on enseigne, là, si jamais tu fréquentes une élève ou un élève, c'est fini, c'est terminé, tu perds ton emploi, là.
Ouais. Mais je suis juste pas d'accord.
C'est moins sévère quand c'est public?
Ouais. Je suis juste pas d'accord avec la direction de la commission scolaire puis de l'école qui bouge pas face à ça. Je pense qu'il aurait pu entreprendre des procédures, il aurait pu le suspendre pendant l'enquête, il aurait pu prendre des sanctions contre lui, le slacker de l'école, le changer d'école, le changer de classe, l'envoyer ailleurs ou à la limite le congédier. Mais moi, je trouve que c'est tellement gros. Puis, tu sais, quand tu as des employés, tu as le droit de mettre un terme au contrat de travail si la personne déshonore ton institution, s'il ne fait pas le travail. Il me semble que dans ce cas-là, si ça, c'est toléré dans une école, je me demande quel exemple ça donne.
Ah,
il aurait dû prendre des mesures puis même le mettre dehors. Parce que moi, si j'avais été le directeur de l'école, il serait plus là, je peux te dire ça. Qu'il fasse un grief puis qu'il aille devant l'arbitre puis qu'il aille justifier devant l'arbitre parce qu'il est syndiqué. Donc, c'est un arbitre qui tranche. Puis qu'il aille devant l'arbitre puis qu'il vienne dire à l'arbitre: Monsieur l'arbitre, je conteste mon congédiement parce que coucher avec mon élève de 16 ans puis la mettre enceinte, c'est correct.
Ouais.
Il n'y a aucune chance.
Autre dossier, puis on s'entend tous pour dire, ben en fait, du moins vous et moi, là, que les sentences sont jamais assez longues pour ce type de délit-là, mais c'est un individu dans le secteur de Trois-Rivières qui a été coincé par le FBI. Il y a un agent du FBI qui est embarqué dans un groupe de discussion, puis il s'est aperçu que dans ce groupe de discussion-là, bon, ce n'était que des pédophiles, et il a réussi à identifier certains pédophiles. Et par la suite, ben, il a transmis l'information aux différents corps policiers. Et le gars à Trois-Rivières, un gars de 41 ans, qui a été arrêté en 2019. Et on dit que cet individu-là était un gars qui était carrément sans scrupules. C'était le père d'une jeune fillette de quelques semaines et il la photographiait et filmait régulièrement ses parties intimes. Et à chaque fois qu'il avait quelque chose à faire, changement de couche et tout ça, il filmait ça puis il envoyait ça directement sur Internet.
Un bébé, là.
Pour fournir en images les pédophiles avec qui il y avait une relation sur Internet. Et c'est là que vous comprendrez que le gars du FBI a réussi à découvrir que cet individu-là, bon, il était dans le secteur de Trois-Rivières et qu'il fallait l'arrêter le plus rapidement possible. On dit que non seulement il partageait ces images-là, mais il assouvissait ses propres pulsions et il s'est fait... L'agent du FBI a transmis les informations aux autorités canadiennes et l'enquête a été prise en charge par le Centre national contre l'exploitation des enfants, qui est dirigé par la Sûreté du Québec. Et après ça, il y a eu une arrestation. On dit que c'est une arrestation très rapide. Et dans les appareils électroniques, bon, les enquêteurs ont trouvé 1 millier de photos de pornographie juvénile, dont plusieurs qui montraient des bébés en train de se faire agresser. Je m'excuse pour les gens qui trouvent ça dur. C'est extrêmement dur, effectivement. Des images qui montraient des gros plans des parties génitales de sa propre fille qui était âgée entre une journée et 3 ans. Et pour la défense, la défense disait oui, c'est un pédophile, mais il mérite juste 3 ans d'emprisonnement. Puis la couronne, elle, réclamait 7 années d'emprisonnement. Et le juge a finalement opté pour une sentence de 6 ans après avoir pris en compte le fait que l'accusé avait plaidé coupable au départ. Donc 6 ans. Il y en a qui vont dire que c'est pas assez long. Je suis d'accord avec eux autres, mais au moins c'est 6 ans.
Au moins 6 ans. Ça commence à avoir du bon sens. Mais il n'y aurait pas moyen de... Tu sais, on en a parlé, je pense, il y a quelques semaines. Tu sais, les producteurs, là, les réseaux sociaux, là, tu sais, tous ceux qui... Quand je prends une photo, moi, là, ça se retrouve en quelque part, là. Il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas personne. Je me souviens, quand j'étais petit gars, moi, on prenait des 35 mm, là, des films. Là, on allait chez Direct Film pour faire... Puis, s'il y avait des photos bizarres, là, le Direct Film gardait ça puis envoyait ça à la police. Dans le temps, là.
Ça se faisait
dans les années 70-80.
Les gens qui développaient les photos regardaient toutes les photos?
Oui, ils regardaient les photos parce qu'ils les développaient. Puis quand tu allais chercher tes photos, là, s'il y avait des photos douteuses, là, des affaires de nus puis tout ça, là, ils pouvaient envoyer ça à la police. Puis c'était marqué dans les directives du développeur de photos. C'était les pharmacies.
Ouais.
Puis direct film, on arrivait de France, on arrivait de Miami. Puis on allait porter nos photos, puis ils développaient. Mais si tu avais des photos qui étaient douteuses, là, le réseau qui développait, l'entreprise qui développait, direct film notamment, pouvait envoyer ça à la police, là.
Ouais. Je sais
mais aujourd'hui, là, tu prends des photos de bébés tout nus avec des organes génitaux d'un enfant que, de toute évidence qui a 4-5 mois. Puis c'est quoi? Là? Il y a pas de, ça s'en va dans l'univers ça, du web, là, puis il n'y a personne pour checker ça. Je comprends pas qu'il n'y ait personne qui check ça nulle part.
T'sais, moi, je me souviens que étant jeune, là, j'ai vu des photos de moi tout nu dans le bain. Là.
Ouais.
Je pense que tout le monde a cette photo-là, le bébé naissant dans le bain qui est en train de prendre son bain. Et tout ça, aujourd'hui, on le déconseille à tout le monde, là, même s'il n'y a aucune idée derrière ça. Si vous faites prendre avec des photos de votre propre enfant aux douanes, je vous annonce que les autres, ils feront pas la différence, que c'est juste une petite photo de ton enfant. C'est de la possession de pornographie juvénile. Mais dans le temps, c'était la fameuse photo de toi en train de te faire laver, puis ta mère était contente de montrer ça à ses amis. Regarde, ça, c'est le petit Yannick qui est en train de se faire laver. Ça se faisait. Vous avez certainement vu ces photos-là, je suis pas le seul.
Absolument. Mais oui, ça existait. Mais tu sais, je sais pas, il y a peut-être des images qui sont un petit peu moins tolérables, là, et qui suggèrent une forme de pornographie, là.
Ouais.
Non?
Ben, je sais pas. T'sais, moi, j'ai toujours fait attention à ça. Quand nos...
Ouais, une face de bébé, c'est pas comme une bisoune, non?
Non, je sais. Mais tu sais, l'été, nous autres, ils se baignaient chez nous. Il y avait un an, puis il était tout nu dans pataugeoire. Puis sa mère prenait des photos, mais on mettait pas ça sur Internet. Là, si on avait une photo à mettre sur Internet, on mettait un ballon. Il était heureux, puis il y avait du plaisir. Mais juste pour vous dire, il y a des systèmes de reconnaissance pour ce qui est des organes génitaux sur Messenger. Semblerait que vous pouvez vous faire... vous faites avertir une ou deux ou trois fois, puis par la suite...
Par le réseau. Pas par la police.
Non, pas par la police.
Non, je comprends, mais au moins, il y a ça, tu sais.
Par le réseau, puis si vous continuez, ben ils vont vous bloquer pendant 30 jours, pendant 60 jours, pendant 90 jours.
Puis eux peuvent parler aux policiers aussi. Là.
Mais il devrait avoir un mécanisme, effectivement, pour les enfants où ça devrait se rendre directement à la police. Là.
Il n'y a aucune censure. Là. Puis c'est sûr que les services policiers, dans tous les services policiers importants, il y a des enquêteurs qui checkent ça, puis qui surveillent, puis qui essayent de développer d'enquêter sur des réseaux potentiels. Mais à quelque part, il y a des millions de photos, tu sais. Il y en a plein qui sont prises. Là.
Ouais.
C'est sûr qu'ils ne peuvent pas tout contrôler, mais peut-être qu'on pourrait faire un effort avec les réseaux sociaux en question pour essayer de bloquer ça. Parce que, regarde, moi, j'en reviens pas. Tu sais, des gars qui prennent des milliers de photos, ça s'en va dans un club de pédophiles. Puis à un moment donné, tu pognes ça. Le dommage est fait. Là. Il y en a combien qui ont reçu ces photos-là? Là, qui ont eu accès à ça?
En même temps, il y en a qui se font prendre, c'est la bonne nouvelle. Ça peut donner une leçon aux autres, mais je ne sais pas si vous avez vu ça dans le secteur. Je pense que c'est dans le secteur de Montréal. Le gars s'appelle T-Rouge. Il est sur Facebook, puis lui, il se fait passer pour une adolescente ou un adolescent, puis il hameçonne des pédophiles.
Lui, il est ouvert, puis il dit qu'il aime ça, puis après il est front, là.
Puis après
il
ça,
se cache pas, là.
Il s'en va chez l'individu qu'il prétend être un pédophile, cogne à la porte, il part son cellulaire, le gars il ouvre la porte, il dit hey, tu pensais que j'avais 13 ans, tu pensais que tu pouvais avoir des relations avec moi, puis là t'as le monsieur qui est en bobette, puis il dit non, c'était pas ça. Jusqu'à quel point lui, il peut pas se mettre dans le trouble? Parce que là, c'est la nouvelle sensation sur Facebook, là, T-Rouge, là, il court après des pédophiles. Dans sa tête, à lui, c'est un héros. De l'autre côté, je sais pas si lui est au courant des dispositions dans la loi, mais tu n'as pas le droit de te prétendre un enfant de 14 ans qui recherche des relations sexuelles avec des messieurs, parce que c'est considéré au même titre que de l'autre bord, le monsieur qui voulait avoir des relations sexuelles avec un enfant.
Ah ouais, il se met dans la peau du pédo finalement pour pogner un pédo. Ouais.
exact. Puis le langage qui est utilisé aussi, c'est toutes des choses qui peuvent être répréhensibles par la loi. Visiblement, lui, depuis le 29 janvier, il n'a rien posté, donc j'imagine qu'il y a une petite visite là, des policiers en leur disant « Regarde, on comprend ce que tu veux faire, là, mais tu vas te mettre dans le trouble. » C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas reposté. Mais lui, il veut sortir faire sortir les pédophiles de l'ombre en même temps.
Alors moi, je me dis « S'il en pogne 3-4, je vais être bien content. » Mais c'est sûr que lui, il se met au bat, là, comme on dit. Là.
On se dit tout ça jusqu'à temps qu'il fasse une erreur sur la personne.
Oui, c'est ça. Puis qui pogne quelqu'un, un papa, comme tu dis, qui prend une photo du bébé dans le bain.
On fait pas, on parle pas d'un individu qui est étudiant en journalisme, on parle pas d'un avocat, on parle pas d'un policier. On parle d'un individu qui, lui, déteste les pédophiles. On est comme tout de son bord, là. Mm-hmm. Mais qui n'a aucune connaissance des façons d'enquêter. Donc, si sur Messenger, je prends la photo de Pierre, puis je me fais passer sur Pierre avec sa photo, puis je dis j'habite à telle adresse, t'es un petit gars de 14 ans, viens me voir. Comprenez-vous que là, il peut avoir une erreur sur la personne. Puis là, le monsieur, lui, qui n'a jamais été impliqué là-dedans, il se fait filmer, il se fait mettre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être sûr qu'il va réclamer parce que sa réputation dans cette ville-là, elle scrape. Ouais,
peut-être que le petit gars de 14 ans, il n'aurait jamais bougé de sa chaise s'il n'avait pas eu cette invitation-là aussi.
Ah, c'est,
ça peut être perçu comme une forme d'incitation au crime aussi.
C'est assez particulier, mais lui, dans son cas, il ne semble pas avoir posté depuis le 29 janvier. Mais j'ai hâte de voir. Les policiers sont allés le rencontrer.
Il a peut-être poigné du monde aussi. Il s'en vante, hein? Mais il a pogné du bon.
Oh oui, il en a pogné une couple, puis ça a l'air que c'est 10 minutes, il était capable de pogner un bonhomme, là, qui voulait des relations sexuelles avec des enfants.
Ça veut dire qu'il y en a plein.
Bon, oui, il y en a plein. Il y en a plein, ça fait peur en même temps.
Eh là là!
Maître Bellemare, vous m'avez transmis un message comme quoi le club de hockey canadien veut un chandail pour célébrer l'histoire des Noirs.
Oui. C'est ça. Moi, j'aime bien le chandail rouge, là.
Oui.
Puis c'est ça qu'il disait en fin de semaine, là, à Martin Saint-Louis.
Chandail rouge, chandail bleu.
Oui, bien le bleu, je comprends pas pourquoi, mais il change les couleurs comme ça. J'aime pas bien ça, moi. C'est plutôt qu'on traditionnel.
On vieillit, mais bellement.
Non, mais pourquoi du bleu?
On a eu
le poudre. T'aimes ça, toi, le bleu? Moi, je me dis, oui, s'il y a une occasion. Comme ça, les noirs, ça va. Peut-être faire quelque chose de particulier pour souligner ci puis ça. Mais en quelque part, moi, le bleu, là, je commence à être un peu tanné. Là. Une fois, ça va, là, peut-être célébrer quelque chose. Le printemps, le ciel est bleu.
Ouais.
Réveille-toi, c'est un jour nouveau qui commence. Là. Mais j'ai hâte qu'il revienne au rouge. Là. T'es pas tanné, toi?
Ben, moi, je le trouve pas spécialement beau.
J'aime ça, avec la fleur.
Le canadien bleu, là, effectivement. Moi, c'est rouge ou c'est blanc et rouge. Le mois de l'histoire des Noirs est une belle opportunité pour l'Organisation du Canadien de réitérer son engagement à bâtir une communauté du hockey inclusive, sécuritaire et accueillante, exemple de toute forme de racisme ou de discrimination. Est-ce qu'on va faire un mois pour ce qui est des Asiatiques?
Oui, c'est ça. Parce que Piquet-Souban, c'était une grande vedette. Ils viennent de souligner son rapport. Oui. Il n'y a personne qui va traiter le Canadien de Montréal de raciste, là.
Non.
Alors,
mais je vous pose la question.
Je ne sais pas trop pourquoi ils font ça. Là,
on le fait pour les Noirs, est-ce qu'on le fait pour les Asiatiques?
Ouais, c'est ça.
L'histoire n'est pas la même, on s'entend tous là-dessus.
Puis les transgenres, à un moment donné, puis les
Mais où est-ce que ça s'arrête? C'est ce que je me pose comme
question. Non, mais ils sont un peu woke, le Canadien. T'as-tu remarqué? Ouais. Là, quand ils font leur petite déclaration au début de la game là, sur le on est en sol autochtone, puis tout ça, là. Niaiseries, ça. Moi, je trouve que c'est des niaiseries. Je ne sais pas pourquoi ils s'embarquent là-dedans, mais tu sais, ils veulent... inclusif. Ils veulent montrer qu'ils sont à la mode, puis ils veulent...
Mais c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que je me demande jusqu'où ils vont aller.
Ils devraient peut-être penser à compter des buts aussi. Je sais pas si... Mais non, mais tu sais, tu regardes les chandails au plafond, puis tout ça, puis les vieux films d'époque, puis on a l'impression toujours de vivre dans le passé, mais ça nous amène un peu plus dans l'avenir. C'est pas mauvais. Mais ils cherchent des prétextes. C'est du gros marketing. Là. Ils font des focus groups. Hein. Mais moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien qui se fait à peu près. Puis probablement qu'ils ont des films de marketing très sophistiqués qui disent, écoutez, vous allez aller chercher une clientèle de plus, vous allez chercher la sympathie du public, vous allez montrer que vous êtes de l'avant-garde, vous allez créer un mouvement. Puis d'après moi, c'est pour ça qu'ils font ça. Tu
sais. Mais bref, le gilet, je ne sais pas si vous l'avez vu en couleur, là, pour célébrer l'histoire.
Il y a une image. Là,
il est très beau. Là.
Oui.
C'est juste que c'est pas le gilet du Canadien tel que nous, on l'a connu.
C'est ça. Mais peut-être que tu vas pouvoir l'acheter, parce que j'imagine qu'à la boutique du Canadien, ils vont vendre ces chandails-là.
Ouais, mais
pourquoi pas?
J'ai jamais acheté de rouge ni de blanc. Là, fait, je verrais pas pourquoi j'en achèterais un différent de ces.
T'as pas de chandail du Canadien, toi?
Non, aucun.
Jamais?
J'ai jamais embarqué là-dedans.
Parce que c'est pas ton club?
Ben oui, c'est mon club, mais j'étais nordique au début. Là.
OK, ben
j'ai
j'espère.
Transféré par la suite, mais
ben,
j'étais nordique.
Pas le choix,
mais j'avais pas de gilet nordique non plus.
Mais
pas...
en fin de semaine, au tournoi Pee-Wee, il y avait beaucoup de chandails des nordiques, hein? Puis des jeunes, hein, puis des chandails qui avaient été usés pas mal. Des jeunes avec des chandails des Nordiques qui étaient assez récents.
Ils prenaient chandails de leurs parents.
Quelques bourrelets apparents, là.
Dernier dossier avant de passer à la pause, Maître Bellemare. Sur Droit Inc., on parle du 3 février dernier. Il y a un juge de la Cour supérieure de l'Ontario qui a rendu une décision dans le cadre d'une demande de recours collectif qui a été faite par trois anciens hockeyeurs qui ont évolué au niveau junior Et par la bande, ce qu'on dit, c'est que noir sur blanc, le magistrat a aussi levé le voile sur l'un des plus abjects, révoltants scandales jamais survenus dans l'univers du sport. Et ça, on va en entendre parler dans le prochain mois, c'est sûr et certain. On parle d'initiation qui était de la torture pour certains joueurs de hockey, des viols, de l'humiliation. Puis sans trop vous dire exactement là, les trucs qui ont été faits à ces joueurs-là, c'était assez explicite. Là. Ce qu'on nous raconte dans le droit Inc., je vais vous donner un exemple, un bâton dans l'anus. Mm-hmm. Après ça, forcé de manger des fruits qui ont été trempés dans la pisse, se faire uriner dessus, se faire mettre de la crème chauffante là, sur le bout du pénis. C'est tous des trucs que les jeunes ont dû subir pour faire partie de l'équipe de hockey. Moi, j'ai joué au hockey pendant plus de 30 ans, Maître Bellemare, là. J'ai jamais entendu parler de ce type d'initiation-là. Mais ce qu'on nous mentionne, c'est que dans la Ligue de hockey junior majeur, quand on évoluait junior, ben, il y avait ce type de choses qui se faisaient pour faire partie de l'équipe. C'était une initiation, tu sais.
Ouais. Ben, c'est le fils de Patrick Roy, ses réseaux sociaux, à un moment donné, qui disait que ça se crossait d'un vestiaire, de faire de même.
Ben, ça, j'ai jamais vu ça.
Non, mais tu sais, c'est ça. Je sais pas dans quelle mesure, mais tu sais, si c'est un juge de la Cour supérieure de l'Ontario, je suis porté à lui donner du crédit parce que les juges n'affirment pas ce genre de choses-là, à moins qu'il y ait une preuve qui a été faite. S'il n'y a pas de preuve qui a été faite, puis probablement que dans le cadre du recours collectif, il y a effectivement une preuve qui a été faite. Ces gens-là ont témoigné. Il y a des affidavits qui ont été produits.
Il y a 16 autres anciens joueurs qui ont entendu parler de cette histoire-là, qui ont décidé effectivement de témoigner, qui ont été assermentés, puis ils ont parlé des sévices allégués qu'eux aussi avaient subis. Fait que c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, là, en médiatisant ça. Ouais. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ben moi, j'ai subi la même affaire. Une autre histoire qui s'est passée, c'est que c'est un club de hockey junior. C'est le temps d'initier les individus. Donc, ils demandent aux chauffeurs d'autobus de surchauffer la toilette, parce que ça a l'air qu'eux autres, il y avait le contrôle sur le thermostat de la toilette. Donc, ils surchauffent...
Dans l'autobus.
Mm-hmm. Surchauffent la toilette, mettent plein de joueurs dans la toilette. Là, les gars trouvent ça drôle. Après ça, prennent des canettes de Pepsi, aspergent les joueurs de Pepsi, c'est collant. Puis après ça, bloque la porte. Et là, pendant 4 heures, pendant 5 heures, les jeunes sont dans cette toilette-là, entassés les uns sur les autres, collés. Ils ont chaud, ils veulent sortir de là.
Dégueulasse.
C'est l'initiation que ces jeunes-là ont eue. Puis il y en a un qui mentionne, il dit « Moi, depuis ce temps-là, je suis rendu claustrophobe. Je ne suis plus capable d'être dans un endroit qui est restreint. » Il y en a qui sont restés marqués de ça.
Bien, certains, mais dans les initiations qui avaient lieu dans les écoles puis les enterrements de vie de garçon dans le temps, là, c'était assez spécial.
Dans remorque, là, on recevait de la mélasse.
Ouais,
on recevait de la mélasse des œufs. Il... On est loin de se faire rentrer un bâton dans le péteux.
Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça aille jusque-là, mais... il y avait quand même pas mal de salissage. Mais qu'est-ce que tu veux? Au traitant autre mœurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Même les universités, les initiations, c'est bien encadré. Là, ils font attention un petit peu plus, puis ils veulent pas perdre leur nom. Mais ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé. Puis je pense que si la Cour supérieure de l'Ontario a décidé que ça s'était passé puis qu'il autorise un recours collectif, c'est parce que le juge a son voyage. Puis d'ailleurs, il décrit bien ça dans le jugement. Puis, tu sais, dans la foulée de ce qu'on a su sur Hockey Canada avec les filles puis les agressions sexuelles, ben on est porté à penser que le hockey est peut-être pas aussi propre qu'on l'a pensé jusqu'à maintenant. Là.
Mm-hmm. Mm-hmm. Question pour vous, Maître Bellemare. Je vais changer le nom. C'est Simon. Il dit « Salut, je suis inspecteur en santé sécurité au travail. Sur un chantier de construction, si un travailleur ne porte pas son casque et se coupe, exemple, à la tête, est-ce que l'entrepreneur doit payer pour les frais de blessure?
Bien, l'entrepreneur ne paiera pas pour les frais de blessure, mais ça va être considéré comme un accident de travail.
Oui.
Ben oui, mais il ne porte pas son casque et il se blesse, oui. Alors, dans ce temps-là, il y a possibilité pour la CNSST de refuser de payer en disant qu'il y a une imprudence grossière et volontaire en vertu de l'article 27 de la loi, c'est ce qui est prévu. Donc, la CSST peut refuser de payer quelqu'un s'il a été négligent puis qu'il a été l'artisan de son propre malheur, mais c'est presque juste des cas d'automutilation qui sont refusés. Puis si l'accident a causé une blessure permanente, bien, ça ne s'applique pas. Fait que c'est juste pour un petit arrêt de travail de 5-6 semaines. Là,
mais qu'est-ce que vous voulez dire des cas d'automutilation?
Bien, les cas des gars qui vont se blesser volontairement, là, tu sais, qui vont quasiment volontairement. Là, tu sais,
qui mais il y en a-tu qui font ça demain?
Qui vont se faire mal. Bien, il y a déjà eu des cas qui ont été répertoriés comme ça. Là, où on a considéré que c'était quasiment comme d'automutilation. Ils se sont fait mal volontairement pour avoir un congé, pour aller à la chasse. L'automne. Dans la loi, il y a une disposition qui dit imprudence grossière et volontaire,
ouais.
Tu n'as pas le droit aux indemnités, mais c'est très rare qu'ils l'appliquent. Puis, tu sais, pas porter de casque, ça veut pas dire que le gars, ben, tu sais, il faisait chaud peut-être, puis il a décidé de pas le porter. Mais, tu sais, c'est pas parce que le travailleur fait preuve de négligence dans le cadre de son travail puis qu'il se blesse qu'il va être automatiquement refusé parce que c'est presque toujours accepté, sauf dans ces cas-là qui sont des cas rarissimes. J'en ai pas vu beaucoup dans ma vie.
Vous avez des questions pour Maître Marc Bellemare? 88-971-1021, 88-971-1021. On fait une courte pause et on vient.
Marceau, le soir. Boulevard 102.1, c'est des animateurs que vous aimez, des sujets qui vous passionnent et du rock. Du gros rock. Mais derrière tout ça se cache un côté tendre. Pour la Saint-Valentin, avec la collaboration du district gourmet, Boulevard 102.1 sera la radio de l'amour.
Ouh là là.
Dès maintenant, envoyez vos déclarations d'amour par message vocal via Messenger de la page Facebook de Boulevard 102.1. En plus d'offrir cette attention vraiment spéciale à quelqu'un que vous aimez, vous pourriez gagner un chèque cadeau de 100$ au district gourmet pour une Saint-Valentin encore plus spéciale. Boulevard 102.1, votre radio de l'amour.
Ouh là là.
Autant d'espace et de polyvalence pour si peu d'essence. C'est le Rogue 2023 de Montmagny-Nissan, Saint-Nicolas-Nissan et Pocket-Nissan. Avec sa consommation d'à peine 6,7 litres au 100 km sur route, aucun autre VUS ne vous en offre autant pour si peu. Surtout que le Rogue 2023 SV édition minuit du groupe Pocket est en location à $499 par mois sur 64 mois avec léger comptant. Détail pendant l'événement testé à l'adrénaline chez Montmagny-Nissan, Saint-Nicolas Nissan et Pocket Nissan.
Si vous deviez jeter votre bâton de déodorant à la fin de chaque mois, même s'il en reste, seriez-vous heureux? Non, nous non plus. C'est pourquoi chez Fizz, vos données mobiles inutilisées se transfèrent au mois suivant.
Podcast. Vous avez manqué la saison 1 de Il était une fois la santé. Elle est disponible partout sur toutes les plateformes.
C'est toi qui m'est arrivé avec une maladie d'Hollywood. Oui, je savais pas. Kim Kardashian avait du psoriasis. Oui. Qu'est-ce que le psoriasis? Maladie auto-immune. Donc, le psoriasis, c'est-à-dire que votre corps s'attaque à vous-même. Et dans ce cas-ci, c'est la peau. Je crois qu'il y a un lien, là, mais Kim Kardashian a souvent des gants. Tu sais, vous te rappelez, à un moment donné, elle s'était mise toute en noir pour oui, chez quel gars-là. Je me suis posé la question. J'ai dit, peut-être qu'elle a une crise actuellement et qu'elle veut vraiment pas se montrer le visage ou quoi que ce soit.
La saison 1 de Il était une fois la santé est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et le BLVD.fm. Ne manquez pas la nouvelle saison, tous les mardis, 19h, dès le 28 février.
Si je te dis bière de micro et pizza, ça te donne le goût, hein? Les jeudis et vendredis, viens donc dîner à l'Emporium. De bonnes bières brassées sur place, des pizzas dignes des pizzerias italiennes. L'Emporium, c'est la place à aller pour tes dîners d'affaires. Réserve sur microbrasserieemporium.com.
La persévérance scolaire d'un jeune, c'est l'affaire de tous. De ses parents qui, chaque matin, lui souhaitent une bonne journée. De ses enseignants qui, chaque jour, l'accompagnent. Du personnel scolaire et parascolaire qui, toute l'année, lui donne les outils, les conditions pour apprendre et s'épanouir. Des employeurs qui soutiennent la poursuite des études. Et même de vous qui, en ce moment, écoutez ce message. Chaque geste fait une différence. Parce que bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer. Un message des Journées de la persévérance scolaire.
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propriété.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Jusqu'à 18h, on est avec l'excellent Maître Marc Bellemare. Vous avez des questions pour lui? 418-971-1021, SAAC, IVAC, CNESST, c'est sa spécialité. Maître Bellemare, je ne sais pas si vous avez lu l'article de Jean-François Racine qui est sorti vers 17h30 tantôt. Un cambriolage à Québec, un cambriolage inusité. Okay. Voulez-vous que je vous dise qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est volé lui-même?
Non, il ne s'est pas volé lui-même. Des jeunes qui auraient décidé d'aller chercher du pot pendant la nuit, donc dans la nuit de dimanche à lundi. Mm-hmm. Et ils ont été dans la succursale SQDC à Beauport.
et y auraient rentré vers le toit. Ce qui fait en sorte que leur larcin aurait été extrêmement payant, puisque selon des informations, donc des détails qui restent à confirmer, là, c'est ce que Jean-François Racine mentionne, c'est que les voleurs auraient réussi, en rentrant par le toit, à vider complètement les lieux. Plus de marijuana disponible. Ils n'ont pas pogné. On dit que la SQDC n'a pas encore nécessairement donné les détails là, de ce qui s'est passé, mais le commerce a été fermé pour la journée et on recherche toujours les individus qui ont fait ce larcin.
OK, il fallait qu'ils changent les étiquettes, là, s'ils veulent écouler le stock.
Oui.
Tu peux pas vendre ça avec les étiquettes de SQDC avec la feuille de liste dessus. Là.
Bon, en même temps, ils vont dire ah ben j'ai été chercher ça, t'en veux-tu? Je sais pas. Je suis pas un revendeur. Là,
tu peux pas écouler ça poche par poche, tu sais.
C'est peut-être pour
sac par sac. Il va falloir que tu fasses ça en gros. Là.
C'est peut-être pour utilisation personnelle?
C'est ça.
Alors, tous ceux qui écoutent du Bob Marley trop fort là, sont susceptibles d'être suspectés par
ça vieillit bien pour ça, du bon vieux stock là, qui a vieilli. Là. Ouais. Mais ça peut-tu, à un moment donné, devenir, je sais pas, après 15 ans, tu peux, c'est encore bon.
La marijuana?
Défraîchir un peu.
Ben, je sais pas. Je sais pas
hein?
Non, vous n'avez pas la même vie que moi. Moi,
non,
c'est
ça.
Je me tiens loin de ces produits-là. Mais Belmore, on va parler de ce dossier-là à Bro. Un planchiste qui est malheureusement décédé sur les pentes. Quelle histoire triste, hein?
Ouais.
Puis il semblerait qu'il est rentré dans un poteau d'électricité, c'est ça?
Un poteau d'éclairage. Donc, c'est certainement aux abords de la piste ou au centre de la piste, parce que tu n'éclaires pas le bois. Là.
Mais normalement, c'est protégé, ces poteaux-là.
Oui, c'est protégé. Mais moi, j'ai l'impression que le gars, il a fait une mauvaise chute. Parce que s'il est arrivé sur le poteau avec tout l'enrobage approprié dans les centres de ski, d'habitude, l'éponge est assez épaisse là, pour faire en sorte que personne ne se blesse. Mais si tu arrives tout croche,
ouais.
si tu tombes mal puis que tu te casses le cou, là, tu meurs. Hein. Ça peut arriver, ça. Ça dépend du genre de chute que tu fais, tu sais. C'est ça qui... Moi, j'ai l'impression que le gars n'était pas très familier avec la planche. Ou bien non, il l'était puis il allait trop vite, un des deux. Mais quand même, c'est triste, ça, 26 ans. Et le centre de ski Bromont, moi, j'ai commencé à skier là. Hein, j'étudiais à Granby à l'époque. Et mes premières descentes de ski, je les ai faites à Bromont, un très beau petit centre, tout près de Granby. Et j'ai l'impression, moi, que c'est une erreur.
Mais regardez, on se pose...
On le saura peut-être jamais, là, mais ouais. J'ai l'impression que... Je pense pas que le centre de ski doive se sentir coupable de quoi que ce soit.
On se posait la question avant, ben pendant la pause, en fait, parce que normalement, ce genre de poteau-là doit être recouvert. Là. Regardez, vous en avez un ici. C'est un poteau d'électricité, mais c'est probablement pas lui. Là.
Uh-huh.
Mais regardez, le poteau d'électricité, il est pas recouvert. Là. Il est directement sur le bois, là, puis il est aux abords de la pente. Là.
OK. C'est vrai, t'as raison.
Ouais.
T'as raison. Alors, il y a peut-être une erreur là, on ne sait pas. Mais en tout cas, le centre de ski s'est dépêché de dire « On a donné du soutien psychologique à nos employés, je comprends, mais ils ont-tu pensé à la famille? » Je ne sais pas, tu sais, à un moment donné, le client a toujours raison. C'est la famille, les frères, les sœurs, les parents de ce jeune-là, ils ont-tu eu du soutien? Mais tu sais, on a du soutien aux employés. Oui, c'est important, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas un employé qui est décédé, c'est un client qui est décédé.
Ouais. Maître Belmore,
j'ai trouvé ça bizarre.
Si je veux être pilote d'avion, puis on me demande d'avoir une vue impeccable, mettons pilote d'avion de chasse, là, ça veut dire que je peux pas avoir des lunettes, je peux-tu avoir des verres de contact, je sais pas, mais on nous dit que non, ça prend des yeux qui sont bons à 100%. Est-ce que je suis discriminé? En fait, oui, mais il y a des raisons logiques à ça.
Il y a des raisons, il faut le prouver, parce que c'est un handicap.
Ouais.
Alors, si c'est un handicap, à ce moment-là, toute forme de discrimination basée sur le handicap est interdite. Alors, si tu es handicapé, puis qu'on dit, ben je sais pas,
tu peux
moi,
pas piloter F-18.
Il y a déjà eu un gars en chaise roulante qui avait demandé une job dans un commerce. Et puis, le propriétaire a dit, je l'engage pas parce que c'est pas beau, une chaise roulante, les clients n'aimeront pas ça.
Et bon.
Mais le gars, il a été réintégré, puis il a eu des dommages d'intérêt.
Oui.
Bon, alors ça, c'est possible.
OK, mais pilote de chasse F-18, là, je peux pas avoir mes lunettes d'en face, là.
Mm-hmm.
Mais je peux pas être pilote parce qu'ils me demandent d'avoir une vue à 100%.
Bien, ils sont capables de le prouver. Oui, ils discriminent, okay. Mais ils ont des raisons parce que pour piloter ce genre d'appareil-là, ça prend une vue parfaite parce qu'ils font des études. Puis ils disent, si tu as une vue qui est moins bonne à 72 % ou à 86 % le risque d'accident est important. C'est des bagnoles, des avions qui coûtent des millions de dollars. Puis tu peux pas faire ça.
OK. J'ai,
la sécurité aussi parce que tu es dans les airs.
Je vais être policier, mais j'ai pas de main.
Mm-hmm.
Ils me prennent pas, j'ai pas de main. Je peux pas tenir une arme.
C'est ça. Alors, c'est justifié.
Je suis discriminé. OK. Je vais être pompier, mais je suis daltonien.
Ouais, mais là, ça n'a pas passé ce coup-là. Là.
Comment ça?
Bien là, c'est la Ville de Québec là, qui a été condamnée. Puis pas juste la Ville de Québec, Médicis aussi, qui est une firme qui fait passer les tests. Parce que le gars avait été pompier à Rivière-du-Loup.
Oui. Lui, il est pompier de formation.
Il avait été pompier pendant plusieurs années à Rivière-du-Loup. Alors là, il veut venir à Québec.
Oui.
Et puis là, il passe des tests. Puis pendant 3 ans, il réussit les tests. Il passe les entrevues, ça marche. Il passe le test médical, ça marche. C'est un gars qui faisait de la compétition. Donc physiquement, il est top shape.
Ouais.
Ça marche. Puis à un moment donné, quand c'est rendu à la dernière étape, là, on dit t'es daltonien, tu peux pas distinguer, je pense, c'est le vert ou le rouge, je sais pas trop. Et à ce moment-là, t'auras pas la job. Alors, lui a fait une plainte spontanément. Il était super déçu, hein, je comprends donc. C'est un jeune homme, puis lui, il voulait être pompier. Il réussissait tous les critères. Alors là, il a fait une plainte à la Commission des droits de la personne, un peu comme Jérémy Gabriel avait fait. Là. Mm-hmm. C'est toujours le même processus, on a déjà parlé. Si tu es victime de discrimination, tu fais une plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. C'est gratuit. Eux enquêtent, puis s'ils pensent que tu as raison puis qu'il n'y a pas d'explication valable, ils ont écrit à la Ville de Québec, puis ils ont dit « Pourquoi vous avez refusé ce gars-là? » Puis là, la ville, puis là, parce que nous autres, on a Médicis qui décide de ne pas l'accepter, puis c'est un handicap, etc. Alors, il n'y a pas vraiment de raison. Fait que là, à ce moment-là, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse décide de poursuivre la Ville de Québec devant le Tribunal des droits de la personne. Et le tribunal condamne la Ville à payer 100 000 piastres.
110 000 $
110 000. 100 000, je pense qu'il y a 10 000 de dommages moraux. Puis 100 000 de dommages parce qu'il a perdu du salaire. Puis en plus de ça, il faut qu'ils l'intègrent dans leurs effectifs parce qu'il aurait été... il ordonne de l'intégrer dans leurs effectifs.
Quand même, alors, 110 000
moi, j'étais un peu surpris. Mais je me suis dit... moi, je ne suis pas un expert, on remarque bien, mais le tribunal entend des experts et entend la Ville qui doit expliquer pourquoi. Parce que si la Ville est capable de dire, écoutez, un daltonien, là, ça ne marche pas parce qu'il ne voit pas la couleur du feu. Ou bien non, si on dit tu vas aller ouvrir la porte verte plutôt que la porte rouge dans un feu, dans un hangar ou quoi que ce soit, ou le gars qui a une tuque rouge, il faut que tu ailles le secourir au deuxième. Je ne sais pas. Là, tu sais, je me suis dit probablement qu'ils sont arrivés avec des exemples comme ça pour dire ben écoutez, dans certains cas, ça pourrait vraiment être problématique. Mais le tribunal, composé d'un juge avec deux assesseurs qui sont des gens qualifiés en droit, a décidé que ce n'était pas fondé puis que la Ville n'avait pas d'argument suffisant pour empêcher ce gars-là d'accéder à leurs effectifs comme pompier.
Vous imaginez-vous...
Moi, je trouve que c'est une belle décision, je te le dis. Là. Je n'étais pas là, je n'ai pas entendu la cause. Mais le gars, il était pompier à Rivière-du-Loup. Il passe tous les tests. Puis à un moment donné, on dit « t'es daltonien », donc on dit non. Il faut que tu aies des arguments pour dire « écoutez, monsieur le juge, on ne peut pas engager un daltonien parce qu'il va arriver quelque chose de grave. » Parce
c'est que pas blindé.
Ils conduisent les automobiles, ces gens-là. C'est pas les couleurs, c'est le format de la lumière qu'ils considèrent. Puis ils ont des façons de se développer dans la société. Puis...
Vous imaginez-vous, M. Bellemare, tous ceux dans les années 80 puis 90 qui se sont fait dire « t'es trop petit, tu peux pas faire la Ligue nationale. »
Exactement.
Hein? Ils pourraient revenir contre la Ligue
nationale. « T'es trop petit, tu peux pas faire la Ligue nationale. Puis t'es trop petit, tu peux pas aller dans la police.
» C'est vrai. Oui, il y avait ça dans le temps.
Il y a pas de filles, parce que ça prenait des gros gars. Pas toujours bien ben brillants, mais ils donnaient la préséance au format des épaules. Au format du cerveau. On avait des policiers qui étaient, dans certains cas, des parfaits imbéciles, qui n'avaient aucun jugement, mais qu'on engageait parce qu'ils étaient gros et qu'ils étaient forts.
Ça fait bizarre de dire ça après que vous venez de dire ça, là. Mais moi, mes deux grands-pères étaient policiers. Là. Okay. Un qui était policier pour la Sûreté du Québec, l'autre, il était...
La police provinciale,
police
dans le temps.
Police provinciale. Ouais. Vous vous souvenez de ça?
Ben oui, avant la Sûreté du Québec, c'était la police provinciale.
Police provinciale, puis l'autre, Sûreté du Québec.
En Ontario, c'est le OPP, Ontario Provincial Police.
Puis eux, en fait, moi, j'en ai connu un des deux, puis il m'a dit que dans le temps, il n'y avait pas de cours de police. T'étais embauché pour ta corpulence et ton bon jugement.
T'étais gros.
T'étais gros. Corpulence.
Ça t'inspirait le respect. Puis le
il
bottin
avait
de téléphone,
bon jugement.
Des interrogatoires, puis ça passait par là. Puis
le bottin de téléphone?
Ben oui.
C'est quoi ça?
Le bottin de téléphone sur la tête, puis donner des coups. Oui.
Il vous collait le bottin de téléphone sur la tête.
Il mettait le bottin sur la tête.
Puis après ça, il fessait sur le bottin.
Il fessait sur le bottin pour ne pas laisser de traces.
Fait qu'on
de
avait le rebound.
C'est ça. Fait que ça faisait un bon coup sur la tête.
OK. Hein. Vous en avez eu combien de coups sur la tête, là?
Moi, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu, mais tu sais, il y a eu un temps où c'était pas, tu sais, même l'alcool au volant. La bière entre les jambes, puis les gens qui prenaient un coup, puis c'était pas... Écoute, ça a tellement changé, tu sais. Juste le tabac dans les restaurants, tu sais.
Ouais.
Le tabac, l'alcool, la vitesse, les mœurs sexuelles. Écoute, quand tu reviens 50 ans en arrière, là, tu t'aperçois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de cheminement qui a été fait. Juste la consommation de tabac dans les lieux publics, là.
C'est vrai.
Moi, j'étais petit gars, là, puis avant de rentrer au séminaire, on avait un examen médical annuel. Tu sais, mm-hmm. J'arrivais avec un certificat annuel. Fait que là, ma mère nous amenait chez le médecin au mois d'août, puis là, on avait notre certificat. C'était assez sommaire comme examen, là. Mais tu sais, le docteur, t'avais un cendrier, là, c'était gros comme un pamplemousse.
Puis il fumait.
C'était plein, là, ouais. Tu sais, il rentrait son botch, là, entre deux, trois autres botch, là, puis ça fumait, t'avais une boucane bleue dans le bureau du médecin.
Ouais.
C'était comme ça que ça marchait. Mais pourtant, on sait bien qu'il y a X produits cancérigènes dans le tabac.
Moi, j'avais un de mes vieux cousins qui m'avait raconté, il s'était fait interroger pour des vols qui avaient été commis dans le coin du cimetière Saint-Charles et tout ça. Mm-hmm. Puis c'est drôle, parce que je pense que c'est M. Ferland qui passe à la télé une fois de temps en temps, ancien enquêteur,
C'est ça.
Qui l'avait interrogé.
Il a fait le livre sur la prostitution juvénile récemment.
Qui est un bon policier. Là.
Ouais.
Puis, il semblerait qu'à un moment donné, M. Ferland avait dit à mon vieux cousin, « T'as besoin d'un avocat, là? » Fait que là, mon vieux cousin dit, « Oui, je vais l'appeler. »
Il en connaît un bon. Moi,